السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم, ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous réunit aujourd'hui dans la Masjid Nour al-Islam pour parler de ce grand bienfait qu'il nous accorde, qui nous permet de vivre le mois de Ramadan. C'est la première intervention, le premier dimanche donc du mois béni. Et en général, la première intervention, c'est un sujet d'ouverture qui est orienté essentiellement vers les fada'il, les vertus du mois de Ramadan, en guise de rappel, comme le prophète alayhi salatu wassalam faisait un rappel aux sahaba lorsque le mois béni commençait. On va faire bien sûr un rappel sur les fada'il, la valeur de ce mois, on va parler des récompenses, mais aussi et surtout on va insister sur les objectifs à atteindre durant ce mois. On va insister sur les objectifs à atteindre et on va essayer de faire le lien entre les objectifs du Ramadan. On va essayer, Inch'Allah, de lister, si on peut se rapprocher un peu les messieurs, on va essayer de lister les objectifs du mois de Ramadan et réaliser, faire le lien et réaliser que, en fait, le Ramadan me permet de concrétiser le but pour lequel j'ai été créé. Et c'est quoi le but pour lequel j'ai été créé ? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ. Allah nous a créé pour son adoration. Au fur et à mesure qu'on avance dans le développement, Inch'Allah, on va réaliser qu'un Ramadan qui est accompli correctement, avec les a'mal, avec les bonnes œuvres, avec l'éloignement des péchés, mais également avec les objectifs spirituels à atteindre, me permet de construire mon identité de muslim. Et le muslim, c'est celui qui a fait istislam lillah. Et le istislam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal. On verra que le Ramadan me permet de développer la piété, bien sûr, la soumission à Allah Azza wa Jal. Chers frères et sœurs, chaque pilier de l'islam est composé de a'mal, d'actions, est composé de règles, on appelle des masa'il fiqhiyya, à respecter. Mais chacune de ces actions a un but ultime et essentiel. Je donne un exemple, la salah. On en avait parlé l'année dernière. La salah, elle est composée de qiyam, position debout, de rukou', de sijda, ainsi de suite, qu'il faut faire bien sûr correctement. Il y a des règles de jurisprudence qui mentionnent la façon de faire le sujoud, comment est-ce qu'on se positionne, si par exemple tel membre ne touche pas le sol, le sijda ne compte pas. Tout ça, c'est des masa'il à retenir. Cependant, celui qui se focalise sur les masla uniquement, c'est-à-dire son but, c'est d'arriver à faire le ruku' parfait, à 90 degrés. D'accord ? Mais, ce qui est très bien, ce qui est noble, mais sans jamais penser à l'objectif ultime de la salah que notre Seigneur nous a révélé et qui est Luqman, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Que l'objectif final de la salah, comme on a dit en introduction, pour tous les piliers, ça te rend meilleur. Quand tu sors de la salah, tu deviens un meilleur croyant, un meilleur musulman. Pourquoi ? Parce que tu as contrôlé ton regard pour Allah, tes oreilles pour Allah, ta bouche pour Allah, chaque membre de ton corps tu as contrôlé pour Allah, et tu as contrôlé également ton cœur pour Allah. Tu n'as pensé à rien d'autre, tu as essayé de chasser les pensées envahissantes et tu t'es concentré autour de Al-Istislamu Lillah. Je suis debout devant Allah, il me voit, il m'observe, il m'entend, il me regarde et je me tiens correctement, je fais en sorte qu'il soit satisfait de moi. Waouh! Ça, c'est la salah des sahaba. Tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Quand tu sors de la masjid, ou pour une dame qui sort de son musalla, elle a un niveau de iman qui atteint la perfection. Et elle doit être capable, ou il doit être capable, de reproduire ce comportement spirituel qu'il avait dans la salah, en dehors de la salah. Ça, c'est l'objectif global. Vous voyez un peu la différence entre celui qui va juste penser comment faire le ruku' correctement, le sijda correctement. Cette personne qui ne pense pas du tout à cet objectif final peut passer à côté de quelque chose qui est pour lui essentiel, essentiel pour son iman. Et ce n'est pas un hasard si Allah nous a gratifié de 5 salats par jour. Tu as droit à 5 mises à jour au quotidien. Hein Bilal, combien de fois tu fais des mises à jour les programmes ? Une fois par mois,
c'est une mise à jour, c'est une fois par mois, tout ce qui est programme informatique. Pour notre iman, il y a 5 mises à jour au quotidien. Et ça, c'est un cadeau de la part d'Allah, Azza wa Jal. Ça, c'est un exemple. Je prends un deuxième et dernier exemple, la lecture du Coran. Je pense que c'était là-dessus qu'on avait insisté l'année dernière. On sait que pour lire le Coran, il y a des règles. Il y a des masa'il, il faut être en état de pureté, il y a ce qu'on appelle le tajwid, makharij al-huruf, la façon de prononcer les lettres, il y a un certain adab, une éthique, respect quand on va lire le Coran. Mais l'objectif final de la lecture du Coran, c'est de s'imprégner de la lumière de Kalamullah. C'est ce qu'Allah nous demande dans le Coran à travers le verset Afala yatadabbaruna al-Quran. Où Allah nous demande de méditer, ce qu'on appelle at-tadabbur, méditer sur le sens et le contenu de chaque verset. Alors pareil, celui qui va insister uniquement sur le tajwid, ou alors pour un hafiz qui révise son taraveeh à fond, mashallah, son objectif unique, oui, unique, c'est de ne pas faire faute. Ressortir la tête haute, voilà, il a lu premier cas, dernier cas, l'antana al-birra, il y avait yusikumullahu, il y avait hurrimat et tout. Il a distribué l'héritage correctement. Il n'y a eu aucune faute. Et il est très fier de lui. C'est bien, mashallah. Il a respecté la kalamullah, il a lu correctement. Mais ce hafez ou ce qari ou ce lecteur, tout simplement, qui ne pense jamais, mais vraiment jamais, à aller creuser un peu le sens des versets, à lire le tafsir, à s'imprégner de la lumière des versets du Coran, lui aussi passe à côté de quelque chose qui est essentiel pour sa vie, pour son existence, pour son lien avec Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, on ne peut pas se permettre de passer à côté de l'objectif de la salat toute notre vie. On ne peut pas se permettre de passer à côté de l'objectif, on ne peut pas passer à côté de l'objectif de la lecture du Coran. Je lis un juz, deux juz, trois, c'est pas là par jour, mais si jamais je me suis concentré sur le contenu des versets, c'est vraiment dommage par rapport à l'effort qui est accompli. Ce serait un terrible gâchis spirituel. Et mes chers frères et sœurs, la vie est courte. Et il est souvent difficile de tirer du temps pour les a'mal, avec nos occupations, avec le rythme de vie qui est le nôtre. Il faudrait être capable de tirer profit de chacune de nos bonnes actions au maximum. Et en tirer vraiment la lumière, le nour qu'Allah Rabbul Izza a mis dans chacune des bonnes actions. Parce que mes chers frères et sœurs, il faut prendre conscience du fait que la bonne action, ce n'est pas uniquement le devoir accompli. C'est pas que je dois faire la salat, je l'ai accompli, le devoir est fait. C'est vrai, la salat compte. La bonne action, ce n'est pas uniquement les récompenses non plus. Je fais la salat, j'ai mes récompenses. Non. La bonne action, c'est également une thèse qui a une purification intérieure, comme on a vu tout à l'heure pour la salat, comme on a vu pour la lecture du Coran, tout ce que cela nous apporte. Chaque bonne action nous apporte un nour, une lumière qui va augmenter notre iman et va nous permettre de devenir meilleurs. Gardons à l'esprit pour le jeûne, mais ça on va travailler dans un instant, le fameux la'allakum tattaqun, l'objectif premier c'est de devenir pieux, de travailler, de progresser de notre piété, et pour la salat c'est de rester éloigné du turpitude et du blâmable, c'est-à-dire de l'ensemble des péchés. Maintenant, après cette longue introduction, comment puis-je profiter pleinement de ce mois de Ramadan? Comment est-ce que je vais atteindre les objectifs spirituels, bien jeûner bien sûr, mais également atteindre ce fameux la'allakum tattaqun et donc profiter de la lumière, le nour que le saum, que le jeûne est censé nous apporter? Avant de commencer, avant de développer, je vais vous citer une anecdote. Je n'ai pas trop l'habitude d'histoire, mais là on va citer une petite histoire. On est à Madina Munawwara, qu'Allah nous y emmène, Inch'Allah. Mais on est à une autre époque. On est à l'époque de l'imam. Dites-moi, quel imam a habité à Madina Munawwara parmi les quatre madhhab? Avant lui. Imam Malik. On est à l'époque de Imam Malik, rahimahullah. Imam Malik habitait à Madina et il faisait ses dars, ses cours de hadith dans la masjid Nabawi. Waouh! Juste imaginez le contexte. Imam Malik, masjid Nabawi, rempli d'étudiants qui apprennent le hadith. Et Imam Malik se distingue par quel ouvrage? Ah, ça, c'est un grand classique, ça. Al-Muwatta, Allah ybarik fik. Imam Malik fait son dars de hadith dans la masjid Nabawi. une personne entre dans la masjid et dit aux gens qui sont là et à l'ensemble des gens, il y a quelque chose qui vient de se passer à Madina. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, quelqu'un est venu à Madina et a porté un animal qu'on n'a jamais vu. C'était un éléphant. Comment on dit éléphant en arabe? Fil. Et les gens de Madina n'avaient jamais vu d'éléphant. Il n'y en a pas de la péninsule arabe. Et tous les élèves de Imam Malik se sont levés, précipités pour aller voir. On a parlé d'un animal qui est gigantesque, qui est exceptionnel. On ne parle même pas des bœufs de Massoum Randera et tout, là. On parle de fil. Et les gens sont partis, ont quitté l'assemblée d'Imam Malik. Sauf une personne qui s'appelait Yahya ibn Yahya al, ceux qui sont Maliki, al-Layfi. Il est resté seul. Imam Malik discute avec lui. Et Yahya, il n'était pas originaire de Madina. Il était originaire de... Allez, je vous donne entre mille. Il venait de quel pays? Un exemple. Donne-moi ton avis.
L'Égypte.
L'Égypte, non.
Tunisie.
Tunisie, non.
Afrique.
Plus loin. Il venait d'Espagne. Qu'on appelait comment? À l'Andalous. Il venait d'Andalous. Et donc, Imam Malik lui dit, tu es venu d'Andalousie. Et là-bas aussi, il n'y a pas d'éléphant. Pourquoi tu n'es pas sorti avec tout le monde pour aller voir cet animal étrange? Il a répondu, Imam Malik, ô cher, je ne suis pas venu à Madina Munawwara pour avoir un simple animal. Wa innama rahiltu li ushahidak. Je suis venu ici pour te voir. Wa ta'allama min ilmika wa hadiyik. Je suis venu pour apprendre de toi et de ton ilm de hadith qu'Allah t'a accordé. Et Imam Malik était impressionné par le sérieux, l'engagement de ce jeune. Et sans rentrer dans les détails, à retenir que Yahya al-Layfi est devenu un des piliers du madhab d'Imam Malik et c'est lui qui a propagé le madhab d'Imam Malik en Andalousie. Naam. Et donc l'auteur, pourquoi je vous parle d'un éléphant tout d'un coup? L'auteur, enfin le cheikh qui a cité cette anecdote, dit que le Ramadan c'est un peu comme ça. Tout le monde est là au début. Premier Ramadan, mashallah, on a vu, hein, si vous arrivez en retard, il n'y a même pas de place dans la masjid. C'est plat. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont venus et qui vivent ce mois de Ramadan avec un objectif précis. Il sait exactement ce qu'il veut de ce mois de Ramadan. Il a fixé ses objectifs en termes de amal. De toute façon, ça c'est pareil, hein. Tout le monde jeûne. Tout le monde fait 5 salats. Mais lui, il a augmenté le quota de tahajjud, de dhikrullah, de qiyamul layl, de lecture du Coran, peut-être un peu plus que les autres. Allah seul le sait. Mais également, il est venu avec un objectif spirituel. Dans sa tête, il sait que je suis là pour la'allakum tattaqun. Je veux obtenir la piété par chacune de ses bonnes actions, par mon abstinence, l'éloignement des péchés, par le fait de ne pas manger, de ne pas boire. C'est quelqu'un qui a créé une symbiose. Il y a un lien avec Allah qui est profond, puissant au fond de son cœur. Allah maja'alna minhu. Il y a cette personne, ben c'est comme Yahya al-Layfi. Quoi qu'il se passe autour, il est là, il écoute le dars de Imam Malik. Et les autres, ceux qui sont sortis, le cheikh dit, ben c'est des gens qui vont se laisser distraire au bout de quelques temps. Au début, ils sont tous là, comme on a dit, ils sont tous là, ils s'engagent et tout. Et au bout de, je ne sais pas, un jour, deux jours, une semaine, une décade, Allah seul le sait, il y a une perte de motivation, il y a une certaine routine qui s'installe. Et là, la personne finit par vivre les journées de Ramadan axées sur trois actions. Sur le sehri, le iftar, le sehri qu'on appelle suhur, le iftar et la salat al-tarawih, bas. Pour lui, le Ramadan, ce sera que ça, un cycle entre se réveiller tôt, ne pas manger toute la journée, rompre le jeûne, bien manger, alhamdulillah, et venir à la namaz, la salat al-tarawih, et tenir ferme les 20 rakat, et rentrer chez soi, très content, le sentiment du devoir accompli. M. Routi qui est présent me dit, oui, mais c'est bien déjà, non? Oui, bien sûr, qui a dit le contraire? Qu'a dit le contraire? C'est comme la personne qui prie sans concentration. Là, est-ce que l'action n'est pas accomplie? Bien sûr. C'est comme la personne qui lit le Coran sans méditer sur le sens des versets. Et sa lecture est respectueuse avec le tajwid. C'est une bonne action, oui ou non? Hein, Yusha, c'est une bonne action. Il lui manque une lumière, mais l'action est accomplie. Alors donc oui, si ton Ramadan, ta conception du Ramadan est axée autour de sehri, iftar et tarawih, tu fais le job. Tu fais le job. Mais est-ce que tu en puises la lumière qui est censé descendre sur ton cœur? Toute cette rahma qui descend des cieux et qui est censée te baigner, imprégner ton cœur, te permettre de devenir tattaqoun, d'obtenir la taqwa, on risque de passer à côté si on se laisse entraîner par cette routine. Après, je reviens un peu sur l'histoire des perturbateurs. Pour ne pas dire perturbateurs endocriniens, ce qui peut t'éloigner de l'objectif, parfois, c'est les réseaux sociaux, c'est vrai. Il peut y avoir les réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook et Snapchat, ce qu'on appelle des aspirateurs de temps. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Des fois, le problème, il est en nous. On n'a même pas besoin de shaitan. Tranquille, on est comme des grands. On a bien grandi, on n'a même pas besoin de shaitan. Il peut prendre sa retraite à 64 ans, il n'y a aucun problème. On se débrouille seul. De quelle façon, Allah Musta'an, on ne donne aucune importance à la bonne action. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La routine qui s'installe et on devient comme un musulman robot qui enchaîne. Quand je viens à ma salat au Tarawih, la seule chose que j'ai fait avec pleine conscience, c'est que j'ai mis un joli capni. Et je me suis parfumé et voilà, je suis arrivé tôt, peut-être premier rang, deuxième rang ou dernier, peu importe. Et quand l'imam commence, Allahu Akbar, et je me tiens bien droit, je bouge pas, je suis très sérieux, je ne reste pas assis entre les namaz, machin. Mais qu'est-ce qu'il a lu? Quel verset? Aucune idée. C'est pas une question d'être hafez ou de ne pas être hafez, hein. C'est que mon cœur ne s'est jamais connecté à cette lecture. Il commence, il lit. Moi, je suis partout. Partout, sauf là. Je suis en train de penser à telle chose. Je fais pas exprès. C'est pas quand l'imam commence, dit bon, alors on va penser aux vacances du mois de août. Alors qu'est-ce qu'on a comme option? Non, c'est que instinctivement tu finis par glisser. Au début tu écoutes Alhamdou, tu es ferme, mais après voilà Dalin, tu t'égares. C'est paradoxal. Après voilà Dalin, tu t'égares et tu commences à penser à mille et une choses. Ben, cette personne-là, dites-moi très honnêtement, quand elle ressort de cette salat au Tarawih après 20 rakat, après avoir écouté un juz et quart, un sipara, un quart ou un sipara, est-ce qu'il y a une grande lumière de iman qui anime son cœur? Il est là, il a répondu présent et c'est une bonne action. Inch'Allah, il obtient la nuit par son ibadah comme les hadiths le stipulent. Mais celui qui écoute avec tadabbur et qui essaie de comprendre le sens, qui est en amont, hein, fait un travail là-dessus, et qui ne serait-ce, même s'il n'a pas compris les versets, mais il comprend son Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, son Tahiyyat, il étudie, il a des livres à la maison, il peut le faire. Celui qui ressort avec cette méditation et tout, c'est quelqu'un qui ressort avec une grande lumière de la Salat de Tarawih. Donc voilà mes chers frères et sœurs, le rapport avec l'histoire d'Imam Malik, c'est ça. Il y a des fois où on laisse la routine s'installer et on ne s'accroche plus aux bonnes œuvres. C'est ce que nous voulons cibler. Parce que comme on a dit en introduction, on ne peut plus se permettre de passer à côté de bonnes actions. C'est plus possible ça. Yusha, tu as quel âge? 44, comme moi. On est en bas de 4-4. Théoriquement, on est 4 roues motrices. On doit avancer. On a 40. Combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste? J'espère pas beaucoup. 10 ans, 20 ans, Allah seul le sait. Fitta'a, de l'obéissance et mourir de l'obéissance. Mais si jusqu'à ta mort, tu n'as pas médité une fois sur le tafsir de Al-Fatiha, tu n'as pas ressenti une fois la grandeur d'Allah en lisant Subhan Rabbi al-Azim de ton rukur, tu n'as pas senti une fois l'écrasante soumission à Allah quand tu es en sujoud en lisant Subhan Rabbi al-A'la, on passe à côté de quelque chose qui est énorme et qui nous permet normalement de devenir extraordinaire, le musulman qui rayonne par la lumière de son iman. C'est ce que nous voulons cibler parce que c'est plus possible d'enchaîner les actions de cette façon. De passer au Ramadan, au Bakri, à l'achat du gros bœuf de 8000 euros, au Hajj éventuel que je vais payer 10000 euros et faire plein de bonnes choses, mais que le cœur est complètement déconnecté. On appelle ça le qalbun, celui qui trouve le cœur insouciant s'appelle le qalbun rafil. On appelle ça la rafla, l'insouciance. C'est ce qu'on veut cibler, le cœur inerte, rafil, qui est déconnecté des bonnes actions, le corps qui œuvre, qui fait de bonnes actions, mais le cœur qui ne s'imprègne pas de ces bonnes œuvres parce qu'il ne vit pas les actions intérieurement. Qu'est-ce qui manque? Tout ce qu'on appelle les a'malul quloub. Hein, Luqman? Les a'malul quloub et quloub, c'est le pluriel de qalbun, c'est le cœur, les actions intérieures. On va juste cibler 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a beaucoup. 5 actions intérieures. Hubbullah, traduisez. Hudaïfa, elle va en retard. Bien, ça c'est mon marji'a pour tous les versets du Coran. Je commence et il termine. On fait le job à deux. Hubbullah, l'amour d'Allah. Khashyatullah, la crainte d'Allah. Il faut bien dire la crainte et pas la peur. D'accord? Muraqabatullah, La pensée, ce sont dans les hyperiales, mashallah. La pensée permanente d'Allah. Cette conviction que tu sais qu'Allah te voit, t'entend, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Haya, avec un hamza. Haya min Allah. Sharam, la honte de désobéir à Allah. Tu es dans une situation de péché, tu te dis, la ilaha illallah, Allah est en train de me voir et moi je suis dans le péché. La ilaha illallah, tout ce qu'Allah m'a accordé, je viens d'avoir mon salaire, une promotion de mon travail, mes enfants sont en bonne santé, et ainsi de suite. Tout ces ni'ma. Et là, je vais mettre les pieds de ce haram. Haya min Allah. Ça, c'est où ça? C'est dans les mains, ça? C'est dans les jambes, ça? C'est ton Coran que tu mémorises? C'est ton diplôme d'alim de qari? Non. Ça se trouve où? Ça se trouve dans le cœur. Ça se cultive intérieurement. Ça s'appelle des a'mal ul qulub. Et j'ai dit cinq, un dernier. Ihtisabul ajr. Espoir de rétribution. Faire le lien entre l'action maintenant et ce qu'Allah te donnera dans l'au-delà. C'est un cœur éveillé. Les a'mal ul qulub, c'est ce qui nous manque réellement. Et pourtant, les savants disent que c'est le moteur des bonnes actions. Les sahabes ont appris iman combien de temps à Madina? 13 ans. 13 ans, on va dire à peu près un ou deux années de moins, jusqu'à ce que le premier pilier ait été révélé, qui est la salah. Pendant tout ce temps, c'était quoi? Renforcer le iman, ce lien, cette confiance, cette conviction, les a'mal al-qulub que les sahaba ont appris avec le prophète alayhi salat wa salam, et qui nous permet de devenir pieux, et qui nous permet de ne plus passer à côté des objectifs, et que quand tu fais deux rakats, ça a une valeur exceptionnelle. C'est peut-être mieux que de faire 100 rakats parce que tu as une concentration. On voit pas, le développement est un peu long, mais si je sors du sujet, quand on expliquait à Montreuil il y a longtemps les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyama, il y avait celui qui passe sa nuit dans le ibadah, une personne qui pense à Allah et qui pleure dans son tahajjud. Il y avait je sais pas quel sahaba qui disait que dans mon tahajjud, je lis qul huwallahu ahad, c'est tout. Mais je le lis plusieurs fois jusqu'à ce que mon cœur commence à trembler, à bouger et que la dévotion s'installe. Plutôt que de faire de grandes rakats sans y réfléchir. C'était toute l'intelligence des sahaba. Donc, je reprends, l'objectif de notre assemblée, c'est comment bien vivre ce Ramadan, comment devenir muttaqi, comment est-ce que je vais faire pour que la lumière qu'Allah a prévu de m'accorder, je l'obtiens au moins cette année et que après le Ramadan, je deviens quelqu'un de meilleur. La première étape, mes chers frères et sœurs, c'est de bien fixer notre niya, notre intention. Et rechercher et vérifier si j'ai la bonne intention correcte. J'analyse mon état d'esprit à l'instant présent. Et je réponds donc à cette question, comment est-ce que je vis ce Ramadan? Ou plus simple, pourquoi est-ce que je jeûne? Est-ce que je vis ce Ramadan comme une obligation? Parce que c'est un devoir? Parce que c'est un pilier? Est-ce que c'est une étape à franchir? Est-ce que je fais partie de ces gens qui comptent les jours avant Eid? Certains vont dire non, je compte les jours pour les nuits impaires. Non, non, non. Est-ce que je fais partie des gens qui comptent les jours pour que, quand c'est terminé, j'aime pas dire ça, excusez-moi, je pourrais enfin reprendre une vie normale, recommencer à faire ce que je faisais avant? Est-ce que le Ramadan est une simple parenthèse spirituelle dans ta vie? Est-ce que pour toi, le Ramadan, ça va être un mois de masjid, premier saf, musalla, zikrullah, tilawat al-Qur'an, istighfar, tahajjud, demander pardon à Allah pour toute l'année? Est-ce que pour toi le Ramadan c'est comme une machine à laver ou comme un lave-vaisselle où tu vas te faire pardonner les péchés de l'année et quand Eid est fini, mulakat, salam alaikum, il mubarak et tout, et le lendemain je retourne vers mes péchés, il n'y a plus de fajar, il n'y a plus de salat, il n'y a plus rien du tout? Est-ce que c'est ça ma conception de Ramadan? À l'instant T, si on avait du temps, j'aurais laissé 2 minutes à chacun pour réfléchir à ce qu'il est en train de penser et comment il conçoit le mois de Ramadan. Ou alors, est-ce que je réalise que je suis en train de donner mes journées pour Allah? Je suis en train de donner mes nuits pour Allah depuis le coucher du soleil, Maghrib. Je fais mon Maghrib, je fais Isha, je fais une heure de temps, 15 de Tarawih. Je me réveille à 3h30 ou à 4h ou certains 2h du matin. Je fais Tahajjud, je lis Quran. Je suis en train de donner mes nuits à Allah, mes journées à Allah. Et est-ce que je réalise que je le fais avec amour et dévotion? Et je pense qu'Allah me voit, m'observe, Allah est fier de moi. Et je veux montrer à Allah tout mon potentiel, entre guillemets, prouver à Allah que je l'aime, prouver à Allah que je mérite son amour pour qu'Allah soit satisfait de moi. Ça, c'est autre chose. Ou alors, troisième cas de figure, je ne pense à rien de tout ça. Je fais le Ramadan, je ne me pose pas de questions. Je fais sehri, je ne mange plus, je remange bien, je fais taravih, je suis fatigué, je bois un milkshake, je rentre à la maison, je dors, et voilà, un musulman en mode mécanique. Allah musta'an. Le niya du croyant, on va voir comment on doit fixer notre intention dès maintenant. Ça doit répondre à ce hadith, le hadith que vous connaissez. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Quand le prophète alayhi salat wa salam, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans le dîn, tout a été révélé, tout est clair. Tout est clair. Et les bases, vous les avez. On va juste faire un petit rappel de tout ça. Donc, le prophète alayhi salat wa salam nous dit, man sama ramadan, complétez s'il vous plaît. Man sama ramadan, imanan wa ihtisaba. Hein? Quel est le résultat? Il n'y a plus besoin de moi. Rufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barakallahu fik. Ça me dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec iman, avec foi, avec ihtisab, il faut développer tout ça, avec ihtisaban, espoir de rétribution, tous ses péchés seront pardonnés par Allah Azza wa Jal. Alors, quel doit être l'alignement de mon niyyah par rapport à ce hadith? Les savants ont commenté, c'est long, mais on va essayer de synthétiser ça. Dans mon niyyah, les savants disent que je dois avoir la conviction que ce que je suis en train de faire là, c'est l'ordre d'Allah. Allah qui nous aime, Allah qui nous aime, Allah qui nous prescrit cette action qui est certes contraignante, pas évident. Là, à 10h, on a soif déjà, on pense à plein de choses. C'est un dimanche, on aurait aimé peut-être sortir, un Mohammed sortir en moto, aller s'y lasser une autre temps, revenir une autre temps, s'amuser. On aurait aimé faire des choses. Mais non, je suis en état de jeûne, ça je le fais pour mon Rabb, pour mon Seigneur Azza wa Jal, qui m'aime, qui me demande quelque chose qui est difficile, hein. Ne pas manger, ne pas boire, et ainsi de suite. Pas évident, contraignant, mais je sais que Allah me prescrit ça pour mon bien. Dans mon niya, je sais que je jeûne parce que je suis dans l'acceptation. J'accepte tout ce qu'Allah me demande, j'accepte. Et je me soumets à lui de la tête aux pieds du premier moment de ma vie jusqu'au dernier moment de ma vie. Et c'est uniquement à Allah que je me soumets. Et gardez ce lien devant qui on se prosterne. Uniquement devant Allah. Et il peut y avoir le plus grand des rois, des princes, des émirs qui passent. On n'a pas le droit de se courber. On n'a pas le droit de se montrer dépendant envers quelqu'un. Notre soumission, elle est uniquement envers Allah. Notre prosternation, elle est uniquement envers Allah. Donc tout ce qu'Allah me demande de faire, je le fais avec amour et dévotion parce que ma vie, c'est pour lui. Tout ça, il faut essayer de placer, trouver la place dans notre cœur pour mettre ces différents aspects du niyyah. À chaque instant de jeûne, surtout dans les moments de difficulté, quand j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, je ressens à quel point j'aime mon Seigneur, mon Rabb Azza wa Jal, et que ce que je suis en train de faire, ce sacrifice-là, c'est ma façon à moi de montrer à Allah à quel point je l'aime et à quel point je suis prêt à l'obéir dans les difficultés. C'est exactement comme quand on fait Qurbani, on offre ce sacrifice, on dit « Oh Allah, ça c'est pour toi ». Donc ces difficultés-là, je les vis uniquement pour Allah Azza wa Jal. Le bon niya du croyant, c'est bien sûr de ne pas considérer le mois de Ramadan comme un fardeau. Je ne compte pas les jours. Au contraire, je me dépasse chaque jour de l'tahajjud, de le dhikrullah, de la lecture du Coran, avec conviction qu'on dit qu'Allah observe mes efforts et mon objectif c'est qu'Allah soit satisfait de moi. Quand je jeûne dans mon niya, j'ai espoir en la rétribution de mon Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'ihtisab. Quand je jeûne, j'ai déjà le cœur projeté vers le akhirah. Le moment où je vais rencontrer Allah et qu'Allah va me demander d'entrer dans le Jannah par cette porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Et intérieurement, je suis heureux durant le mois de Ramadan. Si on dit à quelqu'un qui n'a pas la ilaha illallah de son cœur, que voilà, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne t'amuses pas, tu ne fais pas telle chose et telle chose, mais tu es censé être heureux. Il va dire, ben non, ça n'a pas de sens. On peut être heureux qu'avec ses plaisirs. Ben nous, bien au contraire. Allah nous prive de toutes ces choses, même si le ventre, il est vide, l'estomac gargouille, mais le cœur exulte de joie. Pourquoi? Parce que je sais tout ce qu'Allah m'accorde durant ce mois béni. Ainsi, mes chers frères et sœurs, créez le lien du cœur avec Allah. Le cœur adore Allah. حُبًّا وَتَعْظِيمًا وَخَشِيَةً et le corps exécute cette adoration. Il faut être capable de trouver cet équilibre entre le cœur et le corps pour que on soit entièrement impliqué dans la bonne action. C'est de cette façon et uniquement de cette façon que je vais apprécier chaque instant de ce mois béni et je vais vraiment obtenir la taqwa. Alors justement, quand on parle de ihtisab, on continue à travailler un petit peu le dossier ihtisab, l'espoir de rétribution. Il est important de savoir qu'est-ce qu'Allah nous accorde durant ce mois. Les vertus du mois de Ramadan, vous les connaissez. Je vais juste faire un rappel, sans citer les hadiths pour ne pas être trop long. Je sais que c'est un mois de baraka. Le Prophète a parlé de Shahrun Mubarak. Je sais que c'est un mois de rahma, où Allah nous couvre de sa clémence. Je sais que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Allah me permet d'accomplir les bonnes actions. Allah me permet de rester éloigné du haram. Les shayatines sont enchaînées. Les shayatines sont enchaînées. Petite anecdote, on peut plaisanter dans le mois de Ramadan. La veille du mois de Ramadan, un élève qui fait Hafez, pas un très bon élève, un élève, on va dire un peu le dernier de la classe, vient me voir et me dit, Moïssa, je ne pourrais pas être là durant tout le mois de Ramadan. Instinctivement, je lui dis, pourquoi tu as prévu d'être enchaîné ce soir? Bref, avec les shayatines. Les shayatines sont enchaînées. Au sens propre, certains ulama disent certains shayatines et d'autres disent que, en fait, les shayatines n'ont plus la même pression, le même pouvoir sur nous. Et on remarque, on l'a vu que durant le mois de Ramadan, j'ai une plus grande faculté à rester éloigné des péchés, à accomplir des bonnes actions. Durant ce mois béni, Allah nous accorde un pardon qui est unique dans l'année. Chaque nuit du mois de Ramadan, walillahi, utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla. Allah délivre des gens du feu de l'enfer, c'est-à-dire des gens qui avaient la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, comme nous, mais qui avaient accompli des péchés. Péchés pour lesquels ces personnes n'ont pas pu demander pardon de ce dunya. Mes chers frères, hier, Imam Yassine, Hafez Yassine, dans la salah, a lu Yawma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khayrim muhdara wa ma'amilat min sou. C'était sublime. De par la lecture, aussi doux que la mousse 3 chocolat de son frère, mais par le contenu, ce verset nous rappelle que le jour de Qiyam, Yawma, Yawma al-Qiyam, tajidu kullu nafs, chaque personne va retrouver Yawma tajidu kullu ma'amilat, tout ce que tu as accompli, min khayri, ma'amilat min khayri muhdara, mais également min sou. Toutes les bonnes actions seront posées là. Tous les péchés seront posés là, devant toi. On ne peut plus revenir en arrière. La pire des choses, Allah nous protège, c'est de mourir avec des péchés. C'est qu'on nous enterre alors qu'on n'a pas demandé taouba pour des péchés. Donc, dans la nuit du mois de Ramadan, Allah délivre des gens du feu de l'enfer. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. C'est des gens, des musulmans. C'est Ibrahim, c'est Abdullah, ça peut être Muhammad, ça peut être Bilal, ça peut être Abdurrahman, Allah seul le sait. Nasallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ajirna minan nar. Aminu. Amin. Des gens qui, à cause de certains péchés, ils devaient passer par le Jahannam. Autrement, ils ne peuvent pas. On n'entre pas dans le Jannah avec un péché sur l'épaule gauche. Non, il faut être purifié, soit par le tawba de ce dunya, soit par les épreuves. Allah te mène la vie dure, on va dire. Des épreuves, problèmes de santé, difficultés. La personne, bicharo, un an avant l'immol, il était malade, souffrance. Allah a voulu le laver de ses péchés, pour qu'il revienne vers lui sans le moindre péché. Donc, les péchés sont lavés, je reprends, soit par le stirfar, soit par les épreuves. Mais la pire des choses, je reviens, hein, sinon je vais perdre le fil, c'est que le jour de Qiyama, tu te retrouves avec tes péchés. Et donc, dans chaque nuit du Ramadan, Allah délivre du feu de l'enfer des gens, je reviens, oui, qui devaient passer par la case, par l'enfer, pour se purifier des péchés. Oui, la troisième façon de se purifier, c'est de passer par le Jahannam, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah décide que telle personne qui devait aller en enfer, Allah seul, c'est un mois, un an, deux ans, sallallahu alayhi wa sallam. Même une seconde, c'est inimaginable. La vision de l'enfer, c'est inimaginable. Allah nous protège. Allah décide que ce serviteur n'entre pas dans l'enfer. Allah l'a délivré durant la troisième nuit du mois de Ramadan. Pas forcément la dernière décade, hein. Durant la dixième nuit du mois. Parce qu'il s'est réveillé, il a demandé un taubatun nasuha. Et la question que, voilà, je ne peux pas citer de nom, pour pas que vous pensez que je pense à des choses. Si quelqu'un me demande, est-ce que mon zina est pardonné? Qui veut me répondre? Est-ce que l'adultère que j'ai commis à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, où j'étais dans un voyage, bref, il y a eu un moment d'égarement, j'ai fait quelque chose de haram. Est-ce que ça peut être pardonné par Allah? Bien sûr que oui. Allahu Akbar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika Soufiane, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah pardonne tout à l'exception du shirk. Ne compte pas, ne sois pas effrayé par les péchés que tu as pu, qu'on a pu accomplir. Des péchés que tu as même pas, que tu oses même pas en parler à ton meilleur ami, tellement c'est sale. Et dans l'islam, on ne se confesse pas avec les hommes, avec les êtres humains. On se confesse avec Allahu Rabbul Izzah. Dernier tiers de la nuit, tu lèves tes mains, dis Ya Allah, j'avais 30 ans, Ya Rab, tu sais, j'ai accompli quelque chose d'horrible, j'ai fait telle chose haram, il a réalisé Alik, Ya Allah, j'ai tellement honte, Ya Rab, j'ai tellement peur de ton châtiment. Et là, tu demandes Tawbah, il y a des larmes qui coulent, tu lis La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, jusqu'à ce que tu t'étrangles et tu pleures. Tu dis Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. C'est long, le sayyid de l'istighfar. Tu dis astaghfirullah, ne serait-ce si tu connais astaghfirullah. Et tu dis en français, oh Allah, pardon, ya Allah, tauba, j'ai honte. Et des larmes coulent. Ton péché est pardonné, akhi fillah. Et n'aie aucun doute sur la clémence d'Allah et sur le pardon de ton Seigneur Azza wa Jal. Al-Bari Azza wa Jal. Naam. Et donc, durant les nuits de Ramadan, ça fait partie des vertus, Allah délivre des croyants du feu de l'enfer. Durant le poil de Sehri, le Suhur, je me réveille, les anges sont là, ils font istighfar pour moi. Lorsque je vais rompre mon jeûne, j'ai au moins un doua qui est exaucé. La nuit du destin, hadith wa la haraj, une nuit qui vaut plus que 1000 mois et qui montre la clémence, la générosité, la richesse d'Allah Rabbul Izzah qui est prêt à donner une quantité inimaginable qui dépasse l'entendement juste par quelques efforts de ses serviteurs qui peut-être l'ont désobéi toute l'année mais à cet instant présent revient vers lui et Allah t'accepte. Combien tu vas accepter l'erreur de quelqu'un ? Hein Yusha ? Si tu as quelqu'un dans ton entreprise qui pique dans ta caisse une fois, mise en garde, deux fois, avertissement final, trois fois, il est licencié. Il revient une semaine après, dit pardon patron, désolé, il avait pu manger la maison, il était difficulté. Tu reprends ? Ben non. Quelle que soit la grandeur d'âme de quelqu'un, ça peut être même quelqu'un de la famille, ça peut être une relation de couple où il y a eu un dérapage. À un moment donné, on ne pardonne plus. Mais notre Seigneur Azza wa Jal, Allahu Akbar, sa clémence, son pardon, il est tel que قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez jamais, mais jamais. En fait, désespérer de la clémence d'Allah, c'est déjà un péché. Comme Yusuf, Yaqub a dit à ses fils, إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, tout ça, c'est ce qu'Allah m'accorde durant le mois de Ramadan. Je vous ai cité, je ne sais pas combien j'ai dit, 10 vertus. Est-ce qu'il y avait une de ces vertus que tu ne connaissais pas, Soufiane ? Non, tout est connu. Je vous ai dit, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, est-ce que, à partir de ces promesses de récompense, est-ce que j'arrive à créer le lien de ihtisab, d'espoir de rétribution ? Est-ce que j'arrive à créer la présence de que le lien dunya akhira directement ? Est-ce que j'arrive à créer le lien entre l'action qui est pour Allah et la présence de cœur et la conviction qu'Allah m'observe. Ce lien-là, il est indispensable. Mes chers frères, Allah nous demande la présence de cœur, le lien avec lui dans toutes les bonnes actions. On a donné des exemples. Pour la salah, Allah nous demande le khushu, la dévotion. Pour la lecture du Coran, Allah nous demande le tadabbur, la méditation sur le sens des versets. Vous savez, même dans les situations de la vie ordinaire, quand vous observez la nature, il ne faut pas observer la nature, le cœur vide. Là aussi, il faut penser à la grandeur d'Allah dans sa création. Maintenant, pour le jeûne, on doit être capable de faire le lien. C'est un peu complexe que j'essaie de véhiculer comme explication. Faire le lien entre ce que je fais maintenant et le fait que c'est une soumission à Allah, c'est mon ibadah, ma façon d'adorer mon Seigneur qui à l'instant T et à tout instant m'observe, voit mon intention, sait ce que je fais, connaît mon sacrifice et est capable de me rétribuer d'une façon extraordinaire. Si j'arrive à faire ce lien, je vous promets, je vous assure, et il y aura le khushu, le khudu, la concentration, la dévotion, la présence de cœur, l'implication et le rayonnement spirituel. Je vais ressortir grandi de chacune de mes journées de jeûne. Un savant a énuméré 15 pistes de réflexion concernant le jeûneur. Vu le temps, on s'est promis de terminer à 11h. On ne va pas développer les 15. Je jeûne avec cette intime conviction que mon prophète alayhi salat wa salam avait répondu à un sahaba qui s'appelait Abu Umama. Qui complète Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Hadith rapporté par Imam Ahmad sur Musnad. Ya Rasulallah murni bi'amalin adkhulu bihi al-Jannah. Au prophète d'Allah, dis-moi, donne-moi une action qui me permet d'accéder au Jannah. C'est pas une belle question ça? C'est la question qui nous intéresse tous. Faqala alayhi salat wa salam alayka bis-sawm fa innahu la mithla la. Abu Umama, jeûne, fais le saum. Parce qu'il n'y a aucune action qui est égale au jeûne pour l'accès au Jannah. Quand je jeûne, et que comme notre frère Zoubel qui est au garage, il fait chaud, il y a des clients, c'est difficile à 10h. À 10h, on pense à quoi? À boire quelque chose de glacé ou à manger quelque chose. Ou à 14h, on pense à un expresso, un cortado, quelque chose qui nous permet de... On pense à tout ça. Tu te dis que ce que je suis en train de faire là, de construire, je suis en train de construire mon Jannah. Voici m'a dit, il n'y a rien qui te permettra d'accéder au Jannah comme le jeûne. Je jeûne parce que Allah a dit que le jeûne m'appartient, c'est pour Allah. Et donc quand je le fais, je dis, je suis en train de faire quelque chose qui est khas pour Allah Azza wa Jal. Je jeûne parce que quand je jeûne, là, je sais que notre Seigneur Azza wa Jal a dit que toute bonne action du croyant est multipliée. Et la bonne action, elle vaut 10 fois plus, et ça peut aller jusqu'à 700, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient, et c'est moi, wa ana ajzib, c'est moi qui en rétribue. Donc tu te dis, quand tu es au summum de ta fatigue, exténué au bout de plusieurs jours de jeûne, tu te dis que oui, mais je tiens, comme il dit encore, tiens beau, du verbe tiens beau, je tiens beau, tu tiens beau, ainsi de suite, nous tiens bouillon. Tiens beau, parce que Allah Rabbul Izzah a promis une récompense qui n'est même pas citée dans le Coran et dans les hadiths. Donc tu tiens, c'est tout ça qui te donne cette niaque spirituelle, cette motivation. Mes chers frères, si on ne retrouve pas la source de la motivation, c'est normal qu'on glisse vers la routine et qu'à un moment donné, on se dissipe complètement. Vous savez, il y a même des gens qui vont Umrah, ils vont faire un mois Ramadan, les premiers jours ils sont à fond, le cinquième, sixième jour la routine s'installe. Il compte les rakats. C'est pas parce que vous êtes des mu'aqili ou salah al-boudir que vous allez vous enflammer. Hein. C'est pas le lecteur qui t'enflamme. Les premières lectures, on trouve magnifiques. Mais si ton cœur est rafile, si ton cœur a l'habitude de s'endormir, il n'a pas l'habitude de s'extasier ou sans rapport avec l'extasie, hein, il n'a pas l'habitude de trouver la lumière du Coran, on peut te mettre devant la Kaaba, d'ailleurs le meilleur des imams, hein, aucun rapport. Donc j'ai besoin de retrouver la source de cette motivation. Je jeûne parce que je me pose des questions des fois sur mon iman. Je sens que je ne suis pas au top. J'aimerais comprendre comment devenir un bon musulman, quelqu'un de pieux. Grande question. Ne cherche pas 1001 chemins. Allah Rabbul Izzah t'a promis que si tu jeûnes, la'allakum tattaqun, on finira par obtenir la piété. Jeûne, enchaîne les jours de jeûne, Ramadan et en dehors du Ramadan, ton cœur va gravir les échelons jusqu'à ce que tu deviennes muttaqi. C'est tout ça qui me motive, qui me tient dans la journée du jeûne. Je cite encore un ou deux, parce que 15 c'est beaucoup trop. En ce moment il fait chaud, très chaud. Salatul Tarawih, on est, subhanallah. Et les journées sont ensoleillées, il fallait s'y attendre, c'est l'été. Dans un hadith, il est stipulé qu'Allah Rabbul Izzah a promis un yurwiyahu yawm al-qiyam, c'est la fin du hadith, que celui qui jeûne quand il fait très chaud, Allah lui donnera à boire le jour de qiyama. Et Abu Musa, il attendait les jours où il faisait extrêmement chaud, donc en été, pour jeûner avec cet espoir de rétribution. C'est-à-dire, espoir de rétribution, faire le lien avec ce qu'Allah va m'accorder. Si on arrive à faire ce lien à chaque fois, on garde la concentration, il n'y a rien qui diminue. Du premier jour au dernier jour, il n'y a rien qui diminue. Je jeûne et je garde la motivation, je garde cet amour pour ce jeûne, parce que je sais que dans un instant, ce soir à 18h20, 18h30, quand je vais rompre le jeûne, j'aurai une invocation au moins qui sera acceptée par Allah. Et là, tu penses, tu as une conviction. C'est pas que tu fais doigt comme ça pour faire genre, non. Pense à tes réels problèmes, à tes épreuves, ce qui te fait peur, ce qui t'embête. Pense à ce que tu rêves d'avoir, ce qui est important à tes yeux. Pense à ta femme, à tes enfants, pense à tes parents, pense à ton père qui est décédé. Pense à toute chose qui te tient à cœur. Et dis-toi qu'il y aura une de ces choses que je vais demander à Allah qui sera exaucée. Et ça, c'est valable pendant les 29 ou les 30 jours du mois de Ramadan. C'est tout ça qui nous fait tenir. C'est tout ça qui nous permet de garder dans notre cœur allumer cette flamme intérieure qui est l'amour du mois de Ramadan. Je jeûne et j'aime, je me concentre sur mon jeûne parce que je sais que l'haleine du jeûneur, le joie de Qiyama, pas de ce dunya, hein, on comprend bien, c'est le joie de Qiyama, l'haleine du jeûneur sera aimée et appréciée par Allah Azza wa Jal. Et Abu Hatim, Rahimahullah, explique que le jour de Qiyama, les croyants vont se distinguer de deux façons. On parle de mahshar, on parle de résurrection, on ne parle pas des comptes. On parle de la façon dont on est ressuscité. Il y a deux signes. Un, les membres seront, qui complète ? Muhajjalin. Les membres seront illuminés par la lumière du wuzu. Allahumma ja'alna minhum. Pour ceux qui étaient assidus à leur salat. Et deuxièmement, la laine qu'on avait de ce dunya quand on jeûnait, ce sera une haleine qui sent le musc, le joie du mahshar. Donc quand je jeûne et j'ai cette fatigue, je me dis que le joie de Qiyama, c'est ce que j'aurai à la résurrection. On ne parle pas encore du Jannah, à la résurrection. Naam. Je jeûne également et je m'accroche à mon jeûne parce que je sais que quand je jeûne, ça va casser l'effet de shaitan sur moi. Ça va me permettre de maîtriser mon nafs. Je suis ce croyant qui vient à la masjid, qui essaie d'être régulier, ou pour une dame qui fait ses salats plus ou moins régulièrement, mais j'ai un penchant vers le mal, un penchant vers un péché particulier, quel que soit le péché. J'accomplis ce péché, j'ai honte, je demande pardon à Allah. Deux semaines après, je retombe vers ce péché, je demande, et ainsi, je me dis, mais je vais où comme ça? Là, si l'ange de la mort reprend mon âme, je suis toujours dans le zina, je suis toujours dans ce genre de péché, je fais quoi? Et des fois, on se dit que c'est quoi le makhraj? Qu'est-ce que je peux faire? C'est trop fort. Et des fois, des gens disent que j'arrive pas à contrôler, c'est des pulsions incontrôlables. Est-ce que c'est d'ordre psychologique, avant de dire psychiatrique? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il me faut des médicaments? Non, c'est pas des médicaments qui vont t'éloigner de Shaitan. Il n'y a pas d'anti-satanique, il n'y a pas de ça. En jeûnant, tu casses la chaîne, le lien avec Shaitan. En jeûnant, tu brises ton nafs. Et on sait que le nafs, inna nafs ala ammaratum, hein, Zubair, inna nafs ala ammaratum, tout le monde, tous les hafaz, c'est un ayat. Zubair, je reprends. Inna nafs ala ammaratum, bisou, illa marahim rabbi. Le nafs, il penche normalement, automatiquement, par l'inéité, on va dire, la fitra vers le mal. Et là, tu casse également cette chaîne. Si tu veux te défaire de tout ce qui t'amène vers le haram, jeûne. Le mois de Ramadan, bien sûr, mais même en dehors du mois béni, il n'y a pas meilleure tazkiya que le jeûne. Tout ça, j'en ai cité 10, je vais m'arrêter à là. Au-delà du fait que le jeûne te permet d'obtenir le pardon, de la protection contre le feu de l'enfer, et ainsi de suite, des points qu'on connaît plus ou moins. C'est pour toutes ces raisons que je jeûne avec cœur, concentration, dévotion, parce que je sais qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izzah me donne. Mes chers frères et sœurs, on va avancer, on va conclure dans 15 ou 20 minutes. Quand je prends conscience de tout ce qu'Allah m'accorde durant ce mois de Ramadan en fonction de mes efforts, je vais maintenant multiplier les efforts avec cœur, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, espoir de rétribution, les vertus qu'on vient de citer, et c'est là que je vais apprécier chaque journée de mon jeûne, et je vais enfin pouvoir profiter de la lumière spirituelle de mon jeûne. Et je prends conscience, par rapport au hadith qu'on a cité et d'autres qu'on n'a pas cité, qu'en jeûnant, je prépare mon jannah, je construis mon akhirah. Imaginez une personne aisée vient vous voir et vous dit, voilà, je t'emmène chez le notaire, je te fais une donation de 5 appartements, 5 immeubles dans le centre-ville de Saint-Denis. Waouh! Il prépare ton dunya. Où la personne dit, voilà, quand tu vas aller en retraite, là, 70 ans, enfin bientôt 70, tu vas aller en retraite, je te fais un virement de 10 000 euros par mois pour ta retraite. Il prépare ta retraite. Il prépare ton dunya. Qui ne serait pas heureux? Ouh, je suis soulagé, maintenant je suis content et donc voilà, tu es reconnaissant. Allah te permet de préparer ton jannah. À la lumière de ce hadith, tu prépares ton jannah avec ce jeûne. Est-ce que ça ne crée pas de la joie? Une joie supérieure à une promesse de dunya. C'est tout ça, on a besoin de faire revivre cette lumière de foi. Mais vous allez dire que mais j'ai du mal à m'accrocher à tout ça parce que on entend là à l'instant T, je me dis oui, c'est ça, et oui. Mais dans un instant, ça va changer. C'est vrai que c'est pas en un claquement de doigts. C'est pas avec un rappel qu'on va se métamorphoser avec une spiritualité débordante. Non, il y a un travail de fond à faire. Et on va, en conclusion, dans un instant, dire qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour pouvoir créer cette connexion entre le cœur et les a'mal et orienter tout vers Allah et développer un ikhlas qui est magnifique. On va voir ça. On a juste deux points à voir en quelques instants. Un des objectifs, on a dit que on doit atteindre les objectifs du mois de Ramadan. Un des objectifs qu'on a dit, c'est pas que suhoor, iftar et tarawih, c'est consacrer ma journée pour Allah. Et quand je dis consacrer ma journée pour Allah, si je demande à Luqman, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Il va dire que je lis le Coran, je fais ishraq, je fais des cours. Les a'mal, pas besoin de citer, on connaît qu'est-ce qu'on fait, alhamdulillah. Mais ce n'est pas tout. Consacrer sa journée pour Allah, c'est avant tout, avant même de penser aux bonnes actions, c'est avant tout abandonner tous les péchés pour Allah. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam dit, hadith Imam Bukhari, man lam ya'da qawla zur wa al-amala bihi wa al-jahl, falaysa lillahi haja, il a akhir al-hadith, celui qui, je synthétise la traduction, celui qui n'abandonne pas les péchés, on va faire simple, celui qui n'abandonne pas les péchés du quotidien, Allah n'a nullement besoin que la personne s'abstienne de manger et de boire. C'est puissant comme hadith, hein. C'est une mise en garde, ça s'appelle un tarhib, une mise en garde sévère. Si tu n'arrêtes pas les péchés du quotidien, il n'y avait même pas besoin d'arrêter de manger, de boire, il n'y avait même pas besoin de jeûner. Ça, c'est une décharge électrique qui me permet de comprendre que abandonner les péchés, c'est un objectif clair. Il n'y a pas débat là-dessus dans les journées du mois de Ramadan. Donc, je dois travailler ce qu'on appelle, ça fait partie des amal al-quloub qu'on a cité en introduction, le fameux muraqabatullah que Hudhayfa nous a rappelé, donc ce qu'on avait vu ça dans Riyad al-Salihin. Dans les commentaires de Riyad al-Salihin, il y a un excellent. J'ai parcouru des différents ouvrages en français. Le meilleur commentaire, Riyad al-Salihin, en français, c'est Jardin des Vertueux, hein, pour que tout le monde voit de quoi on parle. Jardin des Vertueux, qui est un regroupement de mutun. De hadith. C'est pas évident. Tu as juste des hadiths, tu lis, c'est bien, mais je veux dire, il faut l'explication. Hein, on peut pas être autodidacte, je vais tirer mes maslages. Non. On a besoin d'explication. Et à mon humble avis, le charh de Ibn Uthaymin, rahimahullah, je vous le promets, c'est du bonheur. Il est en 4 ou 5 exemplaires. Tout n'a pas été édité encore. C'est des petits livrets, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup. Des petits livrets. Il y en a un qui est bleu. J'utilisais à la madrasa le bleu. Où on explique à l'iman, billahi, au malaïkati, oh Allah, 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 Allah. Ce que le cheikh développe, c'est exceptionnel. Et dans le charh de Riyad al-Salihin, on avait vu ce principe de muraqabatullah. La pensée permanente d'Allah. À tout instant, tu penses au regard d'Allah sur toi. C'est ce qu'on doit mettre en application de mes journées de jeûne, faire en sorte de surveiller mes yeux, ma langue, mon cœur et ma personne de façon globale pour que je ne commette aucun péché. C'est-à-dire, on parle d'un état de vigilance spirituelle permanent. Vous savez, quand on parle des péchés à éviter, à délaisser complètement, on sait de quoi on parle, les yeux, les oreilles, ce qu'on n'écoute pas, ce qu'on ne doit pas... Vous savez, il y a des fois, il y a des péchés qui sont beaucoup plus subtils, pour pas dire beaucoup plus graves. Ça peut être quelqu'un qui a une apparence religieuse parfaite. Ça peut être même quelqu'un qui a la connaissance religieuse. Il a un alim, il a appris la connaissance. Mais il prend les gens de haut. Ça peut être une femme qui se couvre bien, mashallah. Mais parce qu'elle se couvre bien, elle se sent supérieure à ses sœurs, à d'autres croyantes. C'est très grave ça comme péché. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle le kibr, al-fakhr. Si tu te sens supérieur, na'oud billah. Ça fait partie des péchés qu'on doit analyser, on doit faire attention. Il y a plein de choses. Ça peut être également une personne, ça peut être une dame. Son fils est marié, donc il a une belle fille, et il n'a aucun respect, elle n'a aucun respect, aucune considération pour sa belle fille. Il y a beaucoup de cas comme ça. De parents qui pensent que voilà, si je marie mon fils à une demoiselle, c'est pour qu'elle soit à son service. Elle n'a pas été créée pour être au service de ton fils. Et il y a un manque de considération, un manque de respect. De façon globale, le manque de respect pour la famille. Le manque de considération pour son prochain, c'est grave. Et c'est contraire à l'enseignement prophétique. La longueur de ta barbe ou les diplômes ou ton hifz du Coran n'y changera rien. Ça reste un péché grave. Et donc, dans mes journées de jeûne, je fais attention à tout ça, mais je fais attention à ma façon d'agir, de parler, de me comporter avec eux, avec mon prochain. Ça peut être également ce chef d'entreprise. Il est au premier rang, il fait ça, ça, là, il, mashallah, il fait tout. Il donne pour la masjid et tout. Mais dans son travail, dans son entreprise, qu'il soit commerçant, comptable, notaire, peu importe le métier, sa façon ou qu'il ait une station où il lave les voitures aussi, la façon, c'est pas toi, hein, la façon qu'il traite ses employés, na'oudhu billah, le manque d'humanisme, le manque de respect, le manque de considération, c'est totalement contraire à l'enseignement prophétique. Quand, allez, on va pas entrer dans trop de hadith, où le sahaba dit que le prophète m'a jamais dit ouf, m'a jamais fait une remarque pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ni pourquoi, non, ne m'a jamais dit pourquoi pour quelque chose que j'ai oublié de faire ou une remarque pour quelque chose que j'ai fait qui était incorrect. Ça, c'est le comportement prophétique. Aujourd'hui, on parle de la sunna en nous. C'est pas que le bonnet, le kafni, la barbe, le bon parfum et ainsi de suite. Et être au premier, la sunna, c'est également, c'est ça aussi. C'est un comportement irréprochable. C'est l'humanisme, c'est aimer son prochain, avoir du respect, de la considération pour chaque créature d'Allah. Donc tout ça, il faut être vigilant sur tout ça durant mes journées de jeûne. Donc un des objectifs, c'est un contrôle total de son corps pour Allah les journées de jeûne. Et si j'arrive à le faire pendant 30 jours, l'objectif final, on ressort de ce mois de Ramadan avec cet état d'esprit et en dehors du mois béni, j'ai atteint l'objectif qui est qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Une vie qui est consacrée à Allah, c'est ça l'objectif du jeûne. Un des objectifs du mois de Ramadan également, c'est le deuxième, c'est consacrer mes nuits pour Allah rabbil izza. Et là, le même auteur, le cheikh, a cité 15 faïda, 15 vertus qui fait que je ne peux plus me permettre de passer à côté du tahajjud, tant de le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Mais comme on doit terminer dans une minute, je ne peux pas citer ces 15 vertus, mais dans d'autres majlis, on aura l'occasion de le faire. Permettez-moi de citer un ou deux. Quand le prophète alayhi salat wa salam vivait les moments les plus difficiles au début de la révélation à Makkah, il a reçu Ya Yuhal Muzzammil. Les savants disent que, et oui, Ya Yuhal Muzzammil, Qumil Layla Illa Qalila. Allah lui demande de prier la nuit. Les savants disent que quand tu as un fardeau sur tes épaules, quand tu vis une situation d'épreuve qui est lourde, qui est difficile, ton rendez-vous avec ton Seigneur, c'est quand? Akhir thuluth al-layl, le dernier tiers de la nuit. Là, tu lèves les mains et tu dis à Allah, tu te plains, et uniquement, comme Yaqub alayhi salam disait, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Il ne s'est jamais, il n'y a jamais une plainte de Yaqub alayhi salam par rapport aux grandes épreuves cumulées, aux trahisons, la perte de deux de ses enfants. Il dit que je me plains, ma tristesse, mais tout ce qui attriste mon cœur, je me livre uniquement à Allah. Dernier tiers de la nuit, c'est là que tu te lèves, c'est là que tu te plains et tu dis « Oh Allah, tu m'as éprouvé par telle chose. Ya Allah, je vis telle situation depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, c'est dur, c'est lourd, Ya Rab, tu sais, c'est toi qui me l'as envoyé, Ya Allah, donne-moi la force de sortir grandi, que j'atteins les objectifs de l'épreuve que tu m'as envoyé, Allah, que tu sois satisfait de moi, que le jour de Qiyama, Ya Rab, que tu me fais entrer dans le Jannah bi ghayri hisab, donne-moi la force de Iman, soulage mon épreuve, accorde-moi la délivrance. » C'est dans le tahajjud. C'est pour ça que je dois m'accrocher à mon tahajjud. Je vais citer que 3 vertus dans le hadith. J'ai pas le matin, j'ai juste écrit les titres. Le mouton ne sera pas une autre fois. Il n'y a pas une action qui te rapproche autant d'Allah. Il n'y a pas une action qui te permet d'obtenir autant l'amour d'Allah que le qiyamullah, le tahajjud. Et quand le sahaba dit au prophète d'Allah, dis-moi quelle action qui me permet d'accéder au djinn, le prophète m'a dit, c'est les 5 piliers de l'islam. Ensuite, le prophète m'a dit, c'est une question extrêmement intelligente. Il dit, est-ce que tu veux que je te montre Babul Khair, les portes de toutes les bonnes œuvres, les portes qui te permettent d'accéder à tout. Le prophète a cité certaines actions, il a cité Qiyamul Layl, prier le soir. par rapport à ces fada'il, je sais que mon rendez-vous, c'est avec Allah le soir. Je ne peux pas me permettre de rater ce rendez-vous. Je ne suis pas ce jeuneur qui se réveille juste pour aller manger souhour, même s'il y a des récompenses, souhour, on l'a dit tout à l'heure. Mais ce rendez-vous avec Allah, c'est un des objectifs ultimes de ce mois de Ramadan. Comme dans la sourate Muddathir, il me semble, où Allah Rabbul Izzah nous dit « wa tabattal ilayhi ». Allez dans le tafsir al-Sa'di. Zakaria, tu as toujours le tafsir al-Sa'di. Regarde, il est c'est puissant et fait une comparaison avec Ibn Kathir. C'est consacré. C'est l'exclusivité de notre temps pour notre Seigneur Azza wa Jal. Ça, c'est essentiel à la construction de ta spiritualité. Mes chers frères et sœurs, un des objectifs du jeûne, c'est également développer la ikhlas, la sincérité. Et c'est l'action par excellence où je peux développer ma sincérité, où je développe les trois catégories de sabr. La patience, à la ta'atillah. Je fais mon tahajjud, mon qiyam al-layl, mon tarawih et tout. C'est dur, c'est long, je suis fatigué, mais je le fais pour Allah. Garde à l'esprit, garde ton cœur que j'oriente ces actions pour Allah. Et c'est par amour pour Allah que j'ai mal au genou, j'ai mal aux chevilles, je suis fatigué, je transpire le soir, il fait chaud au tarawih, mais c'est pour Allah. As-sabru ala ta'atillah. Et ça va amener une sincérité de ton cœur qui est exceptionnelle. Dans le jeûne, il y a également as-sabru an ma'asiyatillah. La patience face au fait de délaisser les péchés. Tu contrôles, on va garder l'exemple, tu contrôles ton regard. C'est pas que tu contrôles ton regard uniquement parce que tu es dans la voiture et que madame est à côté de toi, non. C'est pas que tu contrôles ton regard parce que tu as déjà ton bokafni et tu es en route vers la masjid, non. Tu contrôles ton regard parce que tu es conscient et tu as une conviction inébranlable qu'à l'instant T, Allah regarde mes yeux. Même s'il y a 8 milliards d'individus sur terre à l'instant T, Allah observe chaque créature. Et ça, c'est Al-Alim Al-Qadir. Ça, c'est ce qui est propre à notre Seigneur Azza wa Jal, Al-Azim. Il connaît l'intérieur de chacun à chaque instant. Et donc, à cet instant, je baisse mon regard parce qu'Allah m'observe et Allah aime quand je me contrôle pour lui. Et si j'arrive, voilà quoi, délaisser le péché, ça doit pas être juste une simple habitude. Je ne fais pas parce que ce n'est pas bon. Je ne m'y fais pas parce que Moïse, ça va dire, moi, l'a interdit. Ce n'est pas que ça. C'est que Allah t'observe, recherche l'agrément d'Allah à travers l'abandon de péché. Et le hadith, le prophète dit que man taraka shay'an lillahi 'awadahu Allahu khayran minhu. Quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah t'accorde quelque chose de meilleur. En commentaire du hadith, les savants disent que Allah t'accorde nourun yajidu bihi halawata al-iman. Allah t'accorde une lumière quand tu je reprends l'exemple parce que c'est le péché le plus on va dire le plus facile. Quand tu as la possibilité de regarder ce qui est haram et que tu te contrôles, ça peut être dans la rue. Tu contrôles ton regard, ça peut être sur ton écran. Tu vois une publicité ou quelque chose de pas bien qui s'affiche tout de suite, tu fermes, tu regardes pas. Celui qui contrôle donc ce regard, il se dit que je le fais pour Allah parce que j'ai honte de désobéir à mon Seigneur. Allah m'observe, je peux pas le désobéir. Allah mettra de ton cœur une lumière. Et cette lumière te permettra de trouver ce qu'on appelle halawat al-iman, c'est un terme connu dans les livres de hadith, la douceur de la foi. La douceur de la foi se manifeste comment ? Quand tu pries, tu pleures. Quand tu pries, tu ressens la dévotion. Quand tu fais le tawaf, tu ressens la grandeur d'Allah. Tu ressens que c'est l'équivalent, tu es sous le trône d'Allah. Tu ressens quelque chose de fort. Tu n'es pas celui qui fait le tawaf et qui fait Snapchat. Le cœur vide. 7000 euros dépensés, des efforts. Le cœur vide. Tu ressens cette puissance, cette grandeur. Tu fonds d'émotion et de reconnaissance qu'Allah t'a amené vers cet endroit béni. Tout ça, Allah t'accorde avec le halawatul iman. Donc le rayonnement spirituel n'est pas le même quand j'arrive à intégrer ces deux catégories de personnes. Et la troisième catégorie de personnes, j'allais l'oublier, c'est as-sabru an aqdar illa al-mu'lima. C'est un peu plus technique. C'est quand Allah t'éprouve, tu dois être capable d'orienter ta patience vers Allah. Je supporte l'épreuve. C'est pas juste dire que ne fais ça pas de façon dunya là, c'est que châtiment. Non! C'est pas cette étape là, c'est pas ce niveau. C'est pas que tu m'y fais sabar parce que de toute façon, voilà, Allah l'a écrit comme ça et c'est comme ça. Non. C'est que Allah m'a gratifié d'une épreuve. Vous savez que l'épreuve, c'est à la carte. Parmi toutes ces créatures, Allah m'a choisi pour avoir cette difficulté. Et Allah, à l'instant T, observe comment je vis cette épreuve. Et si je le vis bien, Allah va m'accorder une place exceptionnelle dans le Jannah. Hadith al-Qur'an, le prophète m'a dit que quand quelqu'un est éprouvé de façon permanente, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire qu'une épreuve ça peut être souvent un problème de santé qui nous concerne ou qui concerne un proche, une épreuve qui ne te lâche pas. Et la personne s'en remet à Allah. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Et il réalise que c'est peut-être ce qu'Allah a décidé pour moi, c'est peut-être ce qu'Allah m'a accordé pour accéder au Jannah. Et il fait ce qu'on appelle as-sabr wa al-ihtisab. C'est un long truc à développer. La patience, mais la conviction que ça vient d'Allah et l'espoir qu'Allah va me rétribuer. Le jour de Qiyam, le hadith dit que ma yazalul bala'u bil 'abdil mu'mini hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard wa ma 'alima min khatir. Le croyant est accablé par les épreuves de façon permanente, et il arrive à un tel degré, il n'est même pas au courant. Allah, chaque jour, efface tous les péchés de son livret de compte. Parce que tous les jours, il est éprouvé, donc tous les jours, ses péchés sont effacés. Hatta, et jusqu'à ce qu'il rencontre Allah le jour de Qiyama, wa ma 'alayhi min khatir. De ce dunya, on dit que ça, c'est le plus miskin, le plus éprouvé. Le jour de Qiyama, il arrive direct, ça rentre dans le Jannah, direct, bireili, hisab. Et c'est là que les gens vont dire, Allahu Akbar, quel cadeau qu'Allah lui a accordé de ce dunya. Ibn Uthaymin, rahimahullah, il explique dans le Riyad al-Salihin justement, que les sahaba, quand ils étaient éprouvés, ils faisaient doigt à remerciement à Allah. Ajib. Ils remerciaient Allah pour l'épreuve parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'Allah leur a... Ça, on appelle ça kamalul iman. Et ça, on peut le développer à travers la patience face aux difficultés du jeûne pour arriver à un niveau global que toutes les épreuves que me touchent, je sais que ça vient d'Allah et je patiente pour Allah, azza wa jal. Maintenant, comment concrètement essayer, comment est-ce qu'on peut travailler tout ça, comment est-ce qu'on peut acquérir ces qualités? C'est pas par un discours, c'est pas par un instant ou quelques échanges. Il y a un travail à faire, c'est la conclusion, je vous promets. Il y a un travail à faire au quotidien sur notre iman. Et ça transite par un travail sur, le renforcement de mon ilm, la connaissance religieuse. Mes chers frères et sœurs, et là je suis très clair. On ne progressera jamais dans la religion sans transiter par Kalamullah et Kalamun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans transiter par le Coran et sans transiter par le Hadith. Si tu n'apprends pas au quotidien ta religion par les versets et par les Hadiths prophétiques, tu ne progresseras pas. Tu vas faire peut-être beaucoup plus de bonnes actions, mais il restera une fragilité au niveau de ton iman. Ce qui renforce le iman, le yaqin, c'est al-ilm al-shar'i, la connaissance religieuse. Donc, premier effort concerne la connaissance religieuse. Comment? Première chose, connaître Allah, tout simplement. Étudier al-asma wa-sifat. Al-Aqidah fil Asma wa-sifat. J'ai pas amené de livre, mais il y a un excellent ouvrage, vraiment, qui explique les noms d'Allah. Ça s'appelle « Comprendre les noms d'Allah » écrit par un docteur à Madina Munawwara qui s'appelle Abdurrazak Al-Badr, qui est enseignant de la Masjid Nabawi. L'explication des noms d'Allah, ça remplit ton cœur, ça te permet de comprendre et donner un sens à tes ibadas. Étudier la parole d'Allah, le tafsir, je vous conseille à Sa'adi, associé à Ibn Kathir et d'autres tafsirs. Étudier le Coran, je veux dire le tafsir, c'est quelque chose qui va fortifier ta foi et te permettre de développer les qualités qu'on a citées pendant toute cette intervention. Connaître le prophète alayhi salat wa salam, étudier la sirat. Le livre qu'on étudie en ce moment à Montreuil, c'est il est Nuruddin, il est parti. Quel livre on étudie à Montreuil? Le Nectar cacheté. Tout simplement, j'allais dire tout simplement. Un livre basique que vous avez tous chez vous. Il est magnifique. Ouvrez, lisez Badr, le prophète alayhi salat wa salam, la veille passe toute la nuit, il a dit aux sahaba d'installer une tente au sommet de la montagne. Allez voir Badr quand vous allez à Mecca. Toute la nuit, le prophète fait doigt, les mains levées à un tel point que son vêtement était tombé, sa toge était tombée. Fajr, Abu Bakr dit au prophète d'Allah, ça suffit. Il remet son linge sur son épaule, dit « Ya Rasulallah, Allah t'a écouté, Allah t'a entendu. » Quand tu lis, tu dis la sirah, la piété, l'engagement, ça te donne une autre idée du doua, de la puissance des doua, de l'attachement, le cœur qu'on met dans les invocations. Donc tout ça, mes chers frères, étudier les hadiths. Le mardi soir, il y a un darj de Bukhari dans la masjid, et ainsi de suite. Si on ne travaille pas son « Iyah, Hidayat Nisa », il y a différentes madrasas, pour les hommes, il y a Abdullah ibn Mas'ud, la Tani, ainsi, il y a des majlis dans les quatre masjids presque tous les jours. S'il n'y a pas de connaissances religieuses, tu n'atteindras pas ces hommes. C'est impossible. Le ilm, c'est ce qui te permet d'atteindre ces objectifs. Deuxièmement, les efforts à faire au niveau des a'mal, des bonnes œuvres, mais des bonnes œuvres de façon intelligente, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la sincérité, et réaliser que c'est pour Allah. Des efforts à faire face aux péchés, abandonner les péchés, lister nos péchés, et essayer de les délaisser, de les abandonner les uns après les autres, mais là aussi, les abandonner pour Allah. Réaliser que quand tu refuses telle chose, tu es en train de le faire pour Allah, azzawajal, et ça c'est fort, ça c'est puissant. Ça peut être ce commerçant qui est un peu en difficulté, et qu'une franchise lui propose, voilà, je reprends ton local, tu vends mes marchandises, mais il faut aménager ton local et ça va coûter 75 000 euros. J'ai pas 75 000 euros. Je suis en déficit. La banque me propose 75 000 euros à un taux de 2,5%. Il dit non. Rizq halal. Rizq halal. Je ne mets pas le pied dans le riba. Je ne déclare pas la guerre à Allah, son prophète, et je le délaisse pour Allah. C'est puissant. C'est puissant. Tout ça, ça va apporter de la lumière à ton iman. Donc, les efforts, j'ai dit, dans la connaissance religieuse, dans les bonnes œuvres. Et dans les bonnes œuvres, là, si on avait pu développer les deux points tout à l'heure, on aurait vu qu'il n'y a rien qui te rapproche d'Allah comme le tahajjud et comme le jeûne qui te rapproche d'Allah. Donc, des efforts sur ces deux a'mal, tahajjud toute l'année, inshallah, qu'Allah nous accepte, et le jeûne autant que possible après Ramadan, lundi, jeudi, 13, 14, 15, et ainsi de suite. Des efforts à faire également dans notre façon d'agir avec notre prochain akhlaq, parce qu'un mauvais comportement peut annuler une bonne œuvre. Un mauvais comportement peut annuler une bonne œuvre, et tout ça doit être accompagné de du'a, demander à Allah Hidayah, la guider, de nous permettre de développer les amal ou le khulouf, de nous accorder la sincérité, qu'Allah Rabbul Izzah accepte ce majlis, qu'Allah Azza wa Jal nous permet de développer l'ikhlas, la sincérité, qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde hubbullah, khashyatullah, ta'zimullah, haya minallah, muraqabatullah, qu'Allah Rabbul Izzah nous permet de devenir meilleur à l'issue de chaque jour du mois de Ramadan, et que inshallah à la fin de ce mois on atteint l'objectif la'allakum tattaqoun, on ressort de ce mois béni avec un niveau de taqwa qui me permet d'entrer dans le mois de Shawwal et de vivre les autres jours, les autres mois de l'année avec la même présence de cœur que j'ai dans le Ramadan, avec la même présence de cœur que j'ai durant mes salam et tawfiq illa billah subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan.